Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons à Pointe-Noire, en République du Congo, où s'est tenue la 6e édition du Forum international sur l'économie verte en Afrique centrale les 19, 20 et 21 mai dernier. Un rendez-vous devenu rituel chaque année au mois de mai dans la capitale économique du Congo. Les spécialistes appellent économie verte l'ensemble des activités économiques générées directement ou indirectement par la production des biens et des services qui contribuent à éviter, réduire ou supprimer des nuisances faites à l'environnement. En d'autres termes, exploiter les ressources naturelles disponibles dans chaque terroir, permettre aux populations dans les villages de tirer profit de la forêt sans l'abîmer ou la détruire. L'Afrique centrale abrite le deuxième massif forestier tropical au monde et un vaste réseau hydrographique comprenant 5 grands bassins ou ensembles de bassins fluviaux et des fleuves côtiers du golfe de Guinée. Pour les différents acteurs, cette grande biodiversité offre de nombreuses opportunités. Cette 6e édition du Forum international sur l'économie verte est organisée par le gouvernement congolais, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire et bien d'autres partenaires. En Afrique équatoriale, le maître d'œuvre de cette économie verte, c'est bien évidemment la CEAC, qui est la plus grande institution d'intégration des économies nationales. Notre premier interlocuteur se nomme Honoré Tabouna. Expert en valorisation de la biodiversité et de l'économie de l'environnement, il travaille à la CEAC à Libreville sur les activités relatives à l'économie verte, l'économie de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Avec lui, les différentes évolutions de cette affaire.
Les évolutions, c'est d'abord au niveau politique. Et vous savez que la 6e édition a un lien avec ce qui s'est passé à Kinshasa en octobre 2014, où des ministres qui étaient là, donc ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, ministre en charge du développement durable, ont adopté des projets de décision, notamment le projet de décision sur le texte portant création du fonds et le projet de décision sur le système de l'économie verte en Afrique centrale pour développer l'économie des ressources naturelles hors pétrole, hors minerai.
Alors, ce fonds pour l'économie verte, il est opérationnel?
Non, le fonds de l'économie verte, il n'est pas encore opérationnel parce que, comme je vous ai dit, c'est un fonds communautaire. Et quand c'est un projet communautaire, la dernière décision doit devenir au chef d'État. Ce n'est qu'après ça que nous allons mettre en place tout le processus menant donc vers l'opérationnalisation du fonds pour l'économie verte en Afrique centrale.
Vous voulez me dire, par exemple, le système bancaire ne convient pas aux communautés villageoises ou aux PME, le microcrédit est trop cher, donc il faut trouver autre chose.
Absolument, absolument. Vous savez déjà, moi je suis pour qu'on trouve quelque chose dans la mesure où les petites entreprises, c'est elles qui font fonctionner l'économie réelle dans tous nos États. Et cette économie-là, réelle qu'ils font fonctionner, ils l'ont fait sans appui financier, sinon en passant par des mécanismes traditionnels comme les tontines. Je pense que le moment est venu d'imaginer des mécanismes pour le développement. Parce que s'il n'y a pas de mécanisme, ces petites entreprises vont rester au même niveau où elles sont. Or, il faut maintenant passer à un stade de leur développement. Puisqu'ils ont déjà le projet, il faut avoir de l'argent pour accompagner. L'argent, par exemple, qui est destiné aux prestataires de services.
Avant d'aller plus avant, une précision. La 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, réunie le 25 mai, a pris plusieurs décisions, dont celle portant création du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Pour aboutir à ces décisions au plus haut niveau institutionnel, il a d'abord fallu convaincre les différents décideurs et les acteurs que l'on pouvait faire de l'argent avec cette économie verte.
Absolument. D'abord, il fallait leur démontrer que l'économie verte n'était pas une invention. Qu'ils faisaient déjà de l'économie verte sans qu'ils sachent qu'ils fassent de l'économie verte. Si on cite seulement, par exemple, le secteur du traitement des déchets. On a toujours traité des déchets ici. Si on traite, on cite le secteur de la transformation des produits. L'huile de palme. Le palmier est une plante endémique de l'Afrique. Alors, donc, avant même l'ouverture de l'Afrique centrale à l'Occident, on faisait déjà de la transformation, on était déjà même dans les bioénergies. Donc il fallait déjà passer ce niveau-là de conscientisation pour que les gens se rendent compte que l'économie verte est une réalité, est même une identité, c'est même une obligation pour les États, par exemple, de l'Afrique centrale. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on continue en disant maintenant il faut s'intéresser à ces entreprises-là parce qu'elles créent de l'emploi, elles font de la formation, elles sont même sur les marchés nationaux, marchés sous-régionaux, marchés à l'intérieur. Il faut les accompagner.
L'un des intervenants disait hier que c'est l'économie verte qui va freiner l'exode rural.
Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, tous les produits que nous consommons dans les grandes villes viennent des zones rurales. Alors, donc, si on commence vraiment à s'intéresser à l'économie verte, je prendrai seulement le cas de ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Donc, tous les produits qui viennent de la forêt autre que le bois, donc, ils sont encore à l'état spontané. Les personnes qui sont dans les zones rurales maîtrisent la collecte et même parfois la domestication, la transformation, en tout cas les premières transformations jusqu'à la commercialisation. Il est maintenant question aujourd'hui de développer, disons, les marchés de ceux qui ont l'habitude d'aller acheter de ces produits-là au village. Si ceux-là ont maintenant des nouveaux marchés, ils vont répercuter les volumes qu'ils recherchent sur les volumes qu'ils achètent auprès des populations. Donc à ce moment-là, si on appuie ces populations parce que le marché le veut maintenant, les gens seront obligés de rester au village pour alimenter leurs clients qui sont en ville parce que ces clients-là ont trouvé certains marchés. C'est aussi simple que ça, puisque toutes les plantes cultivées ont été à un moment donné des plantes spontanées. Voilà, donc ça nous permet donc comme impact avec l'économie verte de développer l'économie des territoires. Parce que vous vous rendrez compte que dans chaque territoire, les populations ont des savoir-faire pour la transformation, ne serait-ce que de la biodiversité, qu'elle soit d'origine animale ou végétale. Ils vont même plus loin pour les autres ressources naturelles, parce qu'ils arrivent à faire des produits artisanaux à partir de la pierre, à partir des roches.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Revenir au Forum international sur l'économie verte en Afrique centrale, au Congo, le sanctuaire de cette grande machinerie, c'est la Chambre de commerce, d'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. La cheville ouvrière de cette affaire, c'est Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire.
Oui, on est là pour parler d'économie verte parce que le bureau de notre Chambre consulaire a voulu se mobiliser en faveur de l'économie verte. Pourquoi? Je veux vous le dire. Vous savez qu'il y a quelque temps, le monde avait connu un premier boom, celui des technologies de l'information et de la communication. L'Afrique ne s'était pas mobilisée. On parle aujourd'hui de fracture numérique. Depuis un moment, il y a l'économie verte qui est mise en avant. Nous voulons donc mobiliser les entreprises, les pouvoirs publics et aussi la société civile pour que demain, qu'on ne parle pas de facture écologique. Parce que nous ne sommes pas sûrs que l'Afrique survivra à la coexistence d'une fracture numérique avec la fracture écologique.
Mais il y a quand même un paradoxe. Les ressources naturelles sont en Afrique centrale. La pauvreté est en Afrique centrale. Comment vous expliquez ça?
C'est parce que aujourd'hui, en même temps, vous parlez de pauvreté en Afrique centrale. Il faut aussi dire qu'en Afrique centrale, les économies affichent des taux de croissance très élevés. Mais malgré ça, on n'arrive pas à sortir nos compatriotes, nos populations de la pauvreté. Tout simplement, c'est dû au fait que cette croissance est générée par des activités qui ne touchent pas un plus grand nombre d'entre nous. Aujourd'hui, il nous faut créer les conditions d'insérer sur les maillons des chaînes de valeur qui génèrent cette croissance le maximum de nos compatriotes. Et nous pensons que l'économie verte permet d'insérer un maximum d'entre nous pour que finalement croissance rime avec développement humain.
En somme, valoriser ce que les populations faisaient traditionnellement.
Oui. Il faut valoriser ce que nous faisions traditionnellement. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de protection des forêts, on parle d'agriculture biologique, mais ces savoirs-là existent chez nous. Il va falloir donc les remettre à l'ordre du jour pour que finalement, nous faisions ce que nous savions faire déjà de façon culturelle. Et là, je crois que dans ce domaine, l'Afrique a un avantage culturel à saisir. Mais je trouve qu'elle ne tire pas trop profit et c'est pour ça que le forum vise aussi à sensibiliser les populations, vise à sensibiliser les entreprises à l'économie verte, à l'importance du capital naturel.
Une chambre de commerce, ça veut dire des hommes d'affaires. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut se faire de l'argent avec le savoir-faire traditionnel.
Mais je vais vous donner un cas simple. Si vous avez visité nos stands, vous avez aujourd'hui un cluster qu'on appelle Cosmétique Congo, qui regroupe tout ce qui font de la cosmétique, mais ils le font à travers les savoir-faire traditionnels. Et ils les ont mieux emballés, ils ont mis des techniques marketing, vous voyez qu'ils gagnent de l'argent dessus. Donc, l'économie verte permet de gagner de l'argent. Mieux, je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années, Pointe-Noire était truffée de déchets ferreux. Bon, aujourd'hui, si vous faites le tour de Pointe-Noire, il n'y a plus aucun déchet ferreux. Pourquoi ? Parce que on y a donné de la valeur et tout le monde s'est mis à rechercher les déchets ferreux et à les vendre. Donc, les déchets, c'est une mine d'or. Si on y donne de la valeur, et comment on va y donner de la valeur ? Aujourd'hui, avec les déchets ménagers, on peut fabriquer du compost. Donc, il faut valoriser les déchets pour rendre nos villes plus propres.
Donc, un avantage double, quoi. On assainit le cadre de vie et on se fait de l'argent avec le recyclage.
Oui, c'est un avantage double. Vous savez, quand j'étais jeune, j'allais dans mon village. Lorsque on avait mangé le soir, les feuilles de manioc qu'on avait utilisées, on ne les jetait pas. On les mettait derrière la case parce qu'on les faisait sécher. Après, on les utilisait comme du compost. Et ça, nous devions tirer profit de ces savoir-faire traditionnels que nos ancêtres avaient.
Je vous remercie.
C'est moi.
Les premiers concernés, ce sont évidemment les communautés. Ici, il faut entendre les communautés villageoises. En effet, il peut sembler plus logique d'encourager la production locale plutôt que de continuer à importer ce qu'on sait faire soi-même. Or, chacun sait que l'affaire n'est pas gagnée d'avance. En effet, les communautés rurales manquent de tout. Absence de formation technique, donc absence de qualification technique, et question plus importante, pas d'accès au crédit. Le producteur dans son village ne se voit même pas comme un gestionnaire d'une entreprise familiale. Or, les techniciens et les responsables viennent lui dire qu'il fait partie désormais de la société civile. Nikez Moulumbi est président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. La mise en place de ce réseau n'a pas été sans mal, car même en ville, les porteurs de projets et les PME sont confrontés à de nombreuses difficultés.
Le réseau, il est effectif. À ce titre, nous sommes invités à Pointe-Noire dans le cadre du groupe business pour donc faire une communication au niveau de la réglementation et sur le plaidoyer pour l'économie verte. Ce plaidoyer devra tenir compte non seulement de l'harmonisation juridique en matière d'économie verte, tout simplement comment faire en sorte qu'il y ait sur le plan des incitations les mêmes avantages dans l'espace de la CEAC, même si on peut avoir un certain nombre de spécificités.
L'idée, c'est que d'harmoniser au niveau des 10 pays de la CEAC les réglementations et tenir compte des intérêts des populations locales, ce que vous appelez la société civile.
Absolument. Non seulement harmoniser, tenir compte des populations locales, mais aussi permettre à ces populations locales qui, eux, hier, faisaient des choses sans connaître ou comprendre que ça pouvait contribuer au budget de l'État, que ça a une réelle valeur économique.
Dans le cadre du 6e forum de Pointe-Noire, votre atelier est intitulé « En route vers le COP21 à Paris ».
Oui, en route vers la COP21 à Paris. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il est important que l'Afrique exige dans les négociations un accord juste et équitable, ambitieux pour Paris. Pourquoi Paris ? Parce que Paris, nous pensons que c'est la dernière chance. Et puis, ne nous leurrons pas la face, la COP21, le climat ne peut pas être résolu alors qu'il y a des problèmes de pauvreté extrême, il n'y aura pas de développement durable sans énergie renouvelable. Parce qu'il faut permettre aux populations vivant dans les coins reculés d'avoir l'énergie renouvelable. Mais là encore, nous avons toute une Afrique pratiquement stable. Les ressources naturelles sont là. Elles ont besoin d'être transformées. Mais alors que pour les 30 prochaines années, l'empreinte économique, l'empreinte écologique, l'empreinte sanitaire se fera dans les pays hors OCDE. Alors que les pays hors OCDE, ce sont les pays du bassin du Congo où tout est vierge encore. Est-ce que si demain, il y a un accord contraignant qui met au centre l'humain, Parce que la question des droits humains doit pouvoir sanctionner la réussite de la déclaration de Paris. Ça, c'est important. Le phénomène des voitures d'occasion d'Europe qui affecte la pollution de l'air. Donc, il y a un transfert de pollution. Nous ne nous rendons peut-être pas compte parce que c'est le sous-développement. Mais le jour où nous commencerons à faire des études épidémiologiques, on se rendra compte que ce n'est pas parce que nous avons des espaces forestiers, mais la pollution, elle est là. Il y a aujourd'hui l'érosion côtière. Faites le tour de Pointe-Noire, vous verrez bien que l'érosion côtière est en train de gagner du terrain. Un cas patent, c'est le lac Tchad. Et aujourd'hui, le lac Tchad, il y a des problèmes. Il y a un autre phénomène qu'il faut tenir compte, c'est ce que j'appelle, moi, de l'immigration climatique. L'immigration climatique, pourquoi ? Mais parce que les gens n'auront plus à manger, parce qu'on doit protéger les éléphants, et donc en protégeant les éléphants, ben, il va y avoir donc une augmentation de cette famille de pachydermes, et donc les plantations vont être rasmotées, et donc le déplacement des populations, et donc nous allons rentrer progressivement dans ce que nous appelons l'immigration climatique.
Il y a là deux risques. Les terroirs sont dégradés par la main de l'homme, ce qui entraîne pauvreté et famine. Et quand on déploie des programmes pour restaurer les terroirs, ces interventions viennent de nouveau compliquer la vie dans les villages. Il devient évident qu'il faut procéder autrement.
Comment arrêter cette immigration climatique ?
Pendant qu'il est encore temps.
Pendant qu'il est encore temps. Il est important que l'Afrique se dote d'une feuille de route pour enclencher la transition vers les énergies renouvelables et surtout vers une transformation des énergies fossiles qui permet non seulement d'avoir les États essentiellement qui font recours essentiellement au fuel à gaz, il faut arrêter ces conditions, les questions de torchère, il faut les arrêter, voir comment ce gaz qui est brûlé peut devenir aujourd'hui une ressource économique en réinjectant ce qui était déchet hier pourra devenir une valeur économique. Et donc, nous pensons que Paris devait tenir compte aussi, non seulement des questions d'éducation, notamment sur les questions alimentaires, et les systèmes de santé de meilleure qualité va donc favoriser la question de l'émancipation de la femme, mais encore souvent en défaut. Et nous pensons aussi que les jeunes doivent être au centre des solutions innovantes au changement climatique. C'est quand nous aurons suffisamment sensibilisé nos enfants, quand nous aurons suffisamment éduqué nos enfants, que nous serons sûrs que l'appropriation sera bien assurée. Car autant que nous sommes, nous avons déjà contribué à polluer notre espace. Regardez les boîtes de canettes dans la ville. Mais est-ce que les gens se rendent compte que ce qu'ils jettent comme déchets aujourd'hui sont des canettes, mais demain, c'est une ressource économique parce qu'on peut ramasser ces canettes
et les recycler.
Et en faire des marmites. Donc je pense que l'Afrique a besoin de renforcer la place de l'adaptation et des pertes en dommages.
Donc, ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire mettre suffisamment de moyens sur des questions de raison côtière. Donc il faut les régler sur des questions d'inondation. Il faut donc davantage avoir les plans d'aménagement. Mais le manque d'ambition globale en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre a un impact direct sur les besoins en termes d'adaptation au changement climatique, en termes de pertes et dommages inévitables et irréversibles, c'est-à-dire quand l'adaptation n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il faut donc penser à la sauvegarde sociale environnementale pour protéger les droits humains.
Je vous remercie.
Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie.
Cette sixième édition du Forum de Pointe-Noire a mis l'accent sur le cas de l'économie du reboisement au Congo. En effet, la forêt couvre 60 à 65% du territoire congolais et 10% de la superficie du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon écologique de la planète avec 220 millions d'hectares derrière l'Amazonie. C'est une richesse inestimable qu'il faut soigner et valoriser. Au Congo, cet engagement pour la sauvegarde de la forêt date depuis les années 50. Et depuis 2011, c'est l'affaire du Programme national d'afforestation et de reboisement, ou PRONAR. Le docteur François Mankissi est chercheur, vacataire à l'Institut de développement rural de l'Université Marienne Gwabi et superviseur en charge des opérations techniques du PRONAR. Là, il faut s'employer à décortiquer les explications de ce scientifique.
Le PRONAR, c'est une ambition du gouvernement de la République du Congo qui vise à mettre en place 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à usage multiple pour lutter contre la pauvreté, contre les changements climatiques et créer un environnement meilleur.
Alors moi je suis venu vous voir, docteur, pour que vous me parliez de l'économie du reboisement et du boisement au Congo. Alors quelle est la différence entre le reboisement et le boisement ?
Le boisement, c'est d'abord le fait d'apporter un écosystème forestier sur un autre écosystème existant, mais non forestier.
Par exemple ?
Je peux être dans une zone de savane et je décide d'emmener des espèces forestières dans une savane. En ce moment-là, je réalise un boisement ou une afforestation. Et lorsque je décide d'exploiter un jour cette forêt, et je redécide de replanter, je réalise là, en ce moment-là, un reboisement.
On a parlé d'économie du reboisement au Congo.
Oui.
Est-ce qu'on connaît les chiffres du déboisement déjà ?
Ce n'est pas peut-être le fait de dégradation de forêt, de déboisement qui nous pousse à réaliser le reboisement. Non, mais on s'inscrit dans une dynamique de diversification de l'économie nationale. Et le taux de déboisement au Congo est de 0,05%, donc c'est très faible. Et là, ça signifie effectivement que nous sommes dans une dynamique de diversification de l'économie nationale.
Voilà. Alors, diversification, qu'est-ce que ça veut dire ?
Diversifier les sources de revenus. On parle souvent du pétrole, que l'économie repose sur le pétrole, sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, on veut montrer qu'en faisant, par exemple, l'afforestation, on peut créer des revenus verts. Donc, faire une contribution au PIB grâce aux exploitations forestières.
Ça s'adresse aux communautés villageoises.
Il y a les communautés villageoises qui sont intéressées. Et il y a aussi des industriels. Il y a donc ces investisseurs-là qui peuvent venir et qui réalisent 70% du programme. Et ensuite, il y a le service national de reboisement, donc un service public, qui réalise 20% du programme. Et les 10%, ce sont des individualités, les communautés villageoises, les ONG, qui veulent s'investir dans le reboisement.
Disons que voilà, j'ai une communauté villageoise. Et je veux profiter de ce programme, comment je fais ?
C'est très simple, il suffit de vous rapprocher de PRONAR et la coordination de PRONAR a des équipes qui font de l'accompagnement.
Par exemple, dans un premier temps, moi je peux penser que mon programme est bon. Mmh. Vous le regardez suivant la nature des sols, suivant la spéculation que j'envisage, pour me dire... Il vaut mieux faire autre chose.
Oui, effectivement, nous avons une base de données scientifiques sur les sols, sur les espèces adaptées et sur la productivité. Et tout récemment, nous venons d'avoir une étude des filières réalisée grâce à l'appui de la Banque mondiale. Une étude vraiment importante qui décrit les différentes filières qu'on peut développer au niveau du PRONAR. Et par rapport à votre demande, nous étudions la faisabilité de votre projet. Et si ça ne tient pas, on peut vous conseiller l'espèce à utiliser dans votre projet et le site dans lequel vous pouvez le mettre pour le rentabiliser.
Bon, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que vous avez une pépinière ? Il me faut des plans.
Il y a dans le PRONAR des partenaires qui ne s'intéressent qu'à cette partie de la filière, c'est-à-dire production des plants, c'est des gestionnaires des pépinières.
Est-ce que vous m'aidez à réaliser ma pépinière ?
Oui, depuis que le PRONAR existe depuis 2011, il y a des partenaires actuellement qui vivent de cette activité et que nous avons appuyés.
On va résumer, vous m'avez aidé à faire l'étude de faisabilité, tous les problèmes scientifiques, vous avez vu ça ? Vous m'avez donné les plans, j'ai commencé ma plantation. Est-ce que vous continuez toujours à m'aider ?
Nous continuons toujours à vous aider. Pour que le décollage de l'économie verte soit effectif dans les différentes filières évoquées, il faut qu'il y ait intégration de tous les partenaires. C'est-à-dire, si on décide par exemple pour produire de la pâte à papier, mais si vous gérez une pépinière, il faudrait que vous soyez collé, je veux dire agrafé à un partenaire. Donc la filière part de la production des plants jusqu'au produit fini.
Bon, ça c'est pour l'industriel et pour la communauté villageoise, ça suit le même cheminement ?
Pour la communauté villageoise, ça suit deux cheminements, je veux dire. Le premier, c'est qu'ils peuvent s'intégrer dans la dynamique industrielle, c'est-à-dire que les produits issus de ces plantations sont directement adressés, sont directement achetés par l'industriel qui les transforme jusqu'au produit fini. Et deuxièmement, les communautés ou les petits promoteurs peuvent produire pour le marché local et aussi pour l'autoconsommation.
Et si je choisis du bois pour faire des planches, c'est la même chose?
En tout cas, pour toutes les filières, je veux dire en résumé, c'est la même démarche.
Est-ce que le système de l'économie verte en Afrique centrale s'est venu appuyer cette dynamique de diversification au niveau du Congo?
Chez nous, en République du Congo, l'intérêt de l'économie verte a été institué depuis 1948. Lorsque la communauté internationale, à partir de Rio, décide de promouvoir l'économie verte, ben ça, c'est un encouragement pour nous et une ouverture d'opportunités pour les investisseurs extérieurs. Mais sinon, nous n'avons pas attendu que la communauté internationale décide de faire l'économie verte pour que le Congo s'investisse dans l'économie verte.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous étions à Pointe-Noire, en République du Congo, où s'est tenue la 6e édition du Forum international sur l'économie verte en Afrique centrale. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Et pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante.
Sur le web.